Secret, terrain.
Bonjour et bienvenue sur Secret de terrain. À travers ce podcast, des chercheurs, des chercheuses nous emmènent sur leur terrain et partagent avec nous leurs expériences et leurs rencontres. Secret de terrain est une coproduction entre Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines, et le média de Conversation France. En 2014, le monde occidental découvrait le sort tragique des Yézidis, cible des bourreaux de Daesh. Cette communauté monothéiste, kurdophone, forte d'un demi-million de personnes environ, habite en Syrie, en Irak, en Turquie, en Arménie et en Géorgie. Les souffrances et les massacres des Yézidis ont été particulièrement relatées dans les médias internationaux. Des voix, comme celle de Nadia Mourad, témoins et activistes yézidis, prix Nobel de la paix 2018, ont largement contribué à faire connaître les horreurs qui se déroulent dans les camps de Daesh. En 2020, 2800 femmes et enfants yézidis seraient encore captifs en Irak. Mais l'histoire des yézidis ne commence évidemment pas avec Daesh. Durant 4000 ans, cette communauté discrète a vécu aux marges ou au sein d'autres sociétés, développant des mécanismes propres de récit, de mémoire et de transmission. L'anthropologue Estelle Ami de la Bretèque s'intéresse depuis de nombreuses années aux répertoires musicaux intimistes et intimes au Proche-Orient. Au début de l'année 2006, elle quitte son laboratoire de Nanterre et prend un billet pour l'Arménie. C'est là qu'elle fait une rencontre déterminante.
Je suis partie en avril 2006 avec à peu près 3, 4, 5 numéros de téléphone en poche. Et avec l'idée de partir à la rencontre des Yézidis, dont on m'avait dit qu'ils habitaient dans des villages dans trois régions d'Arménie, la région d'Aparan, la région de Tallinn et la région d'Oktamberian. Donc trois régions avec des peuplements de petits villages dispersés. Et je n'avais jusque-là rencontré aucun Yézidi. Par contre, je sortais tout juste d'un terrain au sud-est de la Turquie, où je m'étais aussi intéressée au chant intimiste, au chant de lignage des Kurdes de la région de Hakkari. Donc là, je partais pour un nouveau départ, un nouveau terrain, auprès d'une communauté que je ne connaissais pas encore, mais dont je parlais la langue, le kurde Kurmanji. Et je parlais aussi le russe qui allait m'être utile donc dans le Caucase, puisque c'est un espace qui a fait partie de l'Union soviétique, et donc un espace où le russe a été la langue d'écriture et de communication pendant très longtemps. Donc voilà, avril 2006, mon sac à dos sur le dos, trois numéros de téléphone et une première adresse, l'adresse que j'allais donner au taxi à l'arrivée, au chauffeur de taxi, adresse d'amis d'amis qui voulaient bien me prêter une chambre, me louer une chambre en fait, le temps de mon séjour en Arménie. Donc je suis arrivée dans cette chambre qui était à Yerevan, donc la capitale d'Arménie, et au mois d'avril, les abricotiers sont en fleurs et c'est vraiment l'arrivée forte du printemps. Dans la plaine de Yerevan. Donc j'ai passé quelques jours à contacter les gens dont j'avais les premiers numéros de téléphone. C'était surtout des académiciens, des gens de l'intelligentsia soviétique qui avaient écrit sur les traditions matérielles, la culture matérielle des Yézidis ou sur l'histoire ou sur la littérature orale des Yézidis. Donc des personnes en général assez âgées, russophones, qui n'avaient en fait aucun lien plus aucun lien avec les villages dans lesquels ils étaient nés. Et puis, à un moment donné, j'ai contacté Emerik Sardar, qui avait été le rédacteur en chef du journal kurde yézidi en Arménie. Il m'a donné le contact de Mraz Ecemal, un poète. Il m'a dit « Ah ben lui, il a encore une sœur qui vit au village, contacte-le, tu verras peut-être qu'il pourra t'emmener au village. » Donc Mraz, le poète, nous dit « Demain, on prend une voiture. » Il s'était arrangé avec son voisin qui avait une voiture pour qu'on lui paye l'essence et qu'il nous emmène dans un village, le village de sa sœur, le village de Riatazé, dans les montagnes d'Aparan. Et donc, au village de Riatazé, on s'est arrêté et on est allé voir sa sœur, donc la sœur de Mraz, qui s'appelle Chouchik. Chouchik, à l'époque, donc on était en 2006, avait une petite soixantaine d'années. Elle vivait seule dans sa maison au village parce qu'elle avait perdu son mari, un de ses fils, son frère. Enfin, donc elle était de plus en plus seule au village. Donc elle partait à Moscou tous les hivers pour passer 6 mois chez son fils qui habitait à Moscou, le fils qui n'était pas décédé. Bon. Et pour Chouchik, ça, c'était vraiment un drame. Quitter sa maison, partir chez son fils pour 6 mois, elle vivait ça comme un exil, un départ en exil. Et elle le disait, elle l'affirmait et elle le chantait. Donc en fait, quand on est arrivé chez Chouchik et que j'ai été présentée, on a bu un thé, on a commencé à discuter. Et là, Chouchik tout de suite m'a dit, voilà, ma vie est compliquée maintenant que mon mari est mort. Quand arrivent les premières neiges, mon fils vient et il m'emmène en exil. Et à ce moment-là, elle a commencé à chanter, à narrer en mélodisant sa voix sur une ligne mélodique. Elle s'est mise à raconter cette histoire d'arrachement, de distance entre sa maison, son foyer et là où elle était obligée de passer l'hiver. Donc là, ça pour moi, ça a été un moment assez, assez fort où je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'assez unique et particulier puisque cette dame-là, à qui je posais des questions d'ordre conversationnel, assez simples, échangées sur comment on voit la vie ou sur la situation même assez pratique, des conditions pratiques de sa vie, elle m'a répondu en chantant, en se mettant à chanter quelque chose. Et elle a chanté quelque chose qui a duré plusieurs minutes. Je ne sais plus exactement le temps, mais 6, 7, 8 minutes. Un long moment d'énonciation mélodisée qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup interrogée et qui a guidé une partie de mes recherches par la suite. Ce que m'a dit Chouchik ce jour-là, c'était un kla meser kharibiye, c'est-à-dire une parole sur l'exil. Sur l'exil, sur son sentiment d'exil. Sachant que l'exil, c'est quelque chose qui, pour les Yézidis, et puis bon, c'est vrai de manière un peu plus large dans le Caucase et au Moyen-Orient, mais l'exil, c'est pas simplement l'exil, le départ d'un pays vers un autre, c'est aussi la mort est vécue comme un exil. Mais le mariage est aussi vécu comme un exil. Les filles, quand elles se marient, elles disent « je pars vivre en exil ». Pourquoi ? Parce qu'elles quittent le foyer paternel et elles vont habiter, puisque c'est une tradition qui est patrilinéaire et patrilocale, donc elles vont habiter dans la maison du mari, dans le lignage du mari. Donc elles vont habiter avec des étrangers, entre guillemets, hein, donc des gens qui ne sont pas de leur lignage à elles. Donc ce sont des pièces rapportées, vraiment au sens premier. Elles peuvent être d'un autre lignage, mais elles vont être adoptées. Donc pour elles, c'est un déchirement. Et par exemple, dans les chants, mais même dans les lamentations, hein, ou dans les... c'est-à-dire qu'au moment, pendant la cérémonie du mariage, la mère de la mariée chante très 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 fréquemment une lamentation pour sa fille qui part en exil.
خورده توره تنچکی وان شکرن کنجی زواتی لکرن اوی 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 خریبم اوی 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 جندیمه اوی 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 خریبم اوی 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 خریبم
Ce qui m'avait intriguée quand Chouchik s'était mise à chanter, c'était le fait qu'elle le fasse au quotidien. C'est-à-dire qu'elle le fasse au détour de la conversation. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se mette à chanter à ce moment-là. On a passé 3 jours ensemble au village et puis on est revenu à la capitale. Mais bon, l'idée tournait dans ma tête après avoir discuté avec Chouchik de continuer à enquêter sur ce sujet-là, voir si c'était quelque chose de très isolé ou quelque chose de très commun. Et par la suite, donc, j'ai pu retourner dans de nombreux villages yézidis, alors avec une petite prédilection pour les villages de la région de Chouchik, la région d'Aparan, où j'ai passé beaucoup de temps, et j'ai pu m'apercevoir que cette parole mélodisée était très forte, très présente en fait, au quotidien dans l'ensemble des villages. Peu après l'excursion au village de Chouchik, à Ariatazé, j'ai rencontré Djemile, qui était infirmière, qui avait un diplôme d'infirmière, qui travaillait à Yerevan dans un hôpital, mais qui était originaire du village de d'Alagaz, dans la région d'Aparan. Et elle passait tous ses week-ends dans ce village-là et dans les villages alentours pour prodiguer des soins, enfin, pour faire un travail d'infirmière, puisqu'il y avait, enfin, il n'y avait aucun médecin, si ce n'est dans la ville d'Aparan, qui était quand même un peu loin pour les villageois. Et il est arrivé assez fréquemment que, lors de visites comme ça médicales, avec Djemile, les gens se mettent à me raconter leur malheur en chantant. On ne mélodise sa voix que quand on dit quelque chose qui a un lien avec la perte et l'absence. Donc, les thématiques évoquées dans les paroles mélodisées, évoquées par les femmes, étaient le départ des proches vers des destinations qualifiées d'exil, donc vers Moscou, vers l'Ukraine, etc., puisqu'il y avait quand même beaucoup d'émigration dans ces années-là. Mais c'était aussi la perte des proches, donc le frère décédé, le père décédé, etc., donc la mort, mais c'était aussi, ça pouvait être, bon, comme Chouchik, par exemple, le fait qu'elle parte 6 mois tous les ans vivre à Moscou, ça pouvait être aussi le jeune neveu qui part faire son service militaire. Donc voilà, en général, des thématiques liées au départ, à l'absence, même si l'absence n'est pas définitive. Harib was a hunan, Amirunus the never Jamaki Shiluna. How what a hade, Hushke bra, they were good. Took a hazard at your head now. Hi lemonade, why lemonade, fell like a hine. En fait, souvent, les gens commençaient à se confier et donc petit à petit à mélodiser leurs paroles quand Djemile avait fini les soins et au moment où on se servait un petit café. Et après avoir bu ce café, en général, c'est là que les langues se déliaient. Et d'ailleurs, avec le café, il y avait en général des petits bonbons dans un papier qui fait énormément de bruit quand on le déplie, qui était sur la table. Et c'est aussi pour ça, donc, dans mes enregistrements, souvent, j'ai le bruit de ce papier qui ressort parce que j'enclenchais mon Zoom pour enregistrer et il y avait toujours quelqu'un qui était encore en train de manger son bonbon et donc il y avait toujours un petit comme ça dans le bruit de micro. On ne coupe pas la parole à quelqu'un qui commence à mélodiser sa voix. Donc c'est un pouvoir assez, finalement assez fort, un pouvoir d'élocution. C'est-à-dire que c'est des moments où les femmes ont la parole. Même s'il y a des hommes dans la pièce, on ne leur coupera pas la parole. D'ailleurs, les femmes qui mélodisent leur voix sont surtout des femmes âgées, entre guillemets. Enfin, en gros, il faut être grand-mère. Et grand-mère, pour les Yézidis d'Arménie, c'est en gros à 40 ans. Donc après la quarantaine, à partir de la quarantaine, on peut commencer à avoir ce pouvoir de la parole. Avant, c'est déplacé, m'a-t-on dit. C'est déplacé parce qu'on est dans une autre période de la vie où il y a d'autres obligations, d'autres choses à faire, et on n'est pas au moment, on n'est pas encore à l'âge où il est de bon ton de raconter ses malheurs. Et puis, paraît-il, avant cet âge-là, on aurait moins de malheur. Donc il y a cette idée en fait qu'avec l'âge, les femmes deviennent petit à petit des endeuillées éternelles. Il y a un mot en kurmanji, dilshewat, ça veut dire cœur brûlant. Donc ces femmes-là, on dit qu'elles ont le cœur brûlant, et elles l'ont, une fois qu'elles l'ont, elles l'ont pour le reste de leur vie. Donc il n'y a pas d'idée de catharsis, on ne se soigne pas de ce mot-là. Et c'est à la fois quelque chose qui est douloureux, et les femmes s'en plaignent, et c'est en même temps quelque chose qui donne aussi une certaine autorité, un droit de parole, donc un statut.
از کات ویران اورستی حال دل خرایا دگریا کرم نی بیس بن سالی نز و جی تا اتنی ای وارد ابری کشته.
Alors les cœurs brûlants sont, quand on devient cœur brûlant, on a des obligations. On a par exemple l'obligation d'aller à toutes les funérailles du village et de s'y exprimer, c'est-à-dire de prendre la parole. Dans les funérailles yézidis d'Arménie, il y a une veille du corps pendant 3 jours et 3 nuits. Et durant les 3 journées, il est de bon ton, on essaye en tout cas, de ne pas laisser s'installer le silence. Donc il faut enchaîner les lamentations pendant 3 jours. La nuit, on peut s'arrêter. On peut s'arrêter la nuit, mais la journée, on essaye d'enchaîner les lamentations. Et les cœurs brûlants sont là pour animer, entre guillemets, ces moments rituels, pour que le silence ne se fasse pas, pour qu'on parle du mort du jour, mais aussi de tous les morts du village. Donc c'est des femmes qui ont en charge de rappeler les défunts de la communauté. Dans leur lamentation, en fait, les femmes peuvent dire beaucoup de choses. Elles peuvent aussi critiquer une telle qui n'a pas beaucoup pleuré aux funérailles de la semaine dernière, et bon, on se demande pourquoi. Est-ce que vraiment elle était en bon terme avec sa belle-mère? Et donc on peut régler aussi des tas de choses dans les funérailles de cette manière-là. Mais avec les événements de 2014 et la prise de Sinjar par Daesh, le 3 août 2014, les Yézidis d'Arménie, qui pour la très 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 grande majorité d'entre eux ne sont jamais allés en Irak, puisque c'était absolument impossible pendant l'URSS, et depuis la fin de l'URSS en général, ils ont d'autres priorités économiques, etc. C'est déjà tellement difficile de survivre dans les villages yézidis d'Arménie qu'on ne pense pas aller faire du tourisme en Irak. Donc les gens n'ont pas de contact direct avec les gens en Irak, mais ils ont pris connaissance petit à petit depuis la fin de l'URSS, de l'existence de l'Alech, le temple principal des Yézidis en Irak, de l'existence de Yézidis à Sinjar. Bon. Et en 2014, ils se sont sentis concernés par ce qui s'est passé à Sinjar, mais vraiment par procuration, c'est-à-dire sans aucun lien direct avec les gens, enfin aucun lien direct, en tout cas de mémoire d'homme, avec les gens de la région de Sinjar. Et beaucoup de paroles mélodisées ont commencé à être énoncées par les gens dans les funérailles, Alors, je l'ai pas, ça, je n'ai pas pu l'observer moi-même, mais il y a une chercheuse qui a déjà écrit un article là-dessus sur l'évocation du Ferman de Sinjar, donc du génocide de Sinjar, ils disent Ferman pour dire génocide ou massacre, dans les lamentations des Yézidis d'Arménie. Donc, on peut imaginer, par exemple, pour la mort de Hassan, qu'on va dire « Hassan, toi qui es mort, et on pense à tous ceux qui sont morts à Sinjar », donc une espèce de dimension de mémoire collective qui inclut Sinjar d'une manière qui était impensable en 2006, quand je suis allée pour la première fois sur le terrain. Ce que j'ai trouvé très fort dans l'ensemble de mes terrains au Moyen-Orient, et peut-être encore plus pour le dernier terrain en Arménie, c'est la capacité des femmes à mélodiser leur voix pour raconter des choses extrêmement tristes et personnelles. Et quand je dis la capacité, c'est que, en fait, moi, je suis dans l'incapacité, enfin, je pense que je serais incapable de le faire. Et ça fait partie des choses qui m'intriguent. Pourquoi est-ce que je serais incapable de le faire? Parce que si j'essaye de chanter quelque chose qui est très personnel et très, très intime et qui me remue, ma voix s'étrangle, ma voix tremble, ma voix se noue. On ne peut pas chanter et pleurer en même temps. Alors certes, dans les lamentations, on peut entendre une esthétisation des sanglots, une esthétisation des pleurs, mais ils sont esthétisés, c'est-à-dire qu'ils sont contrôlés. Et à partir du moment où l'émotion n'est pas contrôlée, la voix se casse. Donc ces femmes-là, les femmes au cœur brûlant, elles mettent en mots une peine qu'elles considèrent ou qu'elles expliquent comme étant une peine personnelle, mais elles sont capables de la mettre en mots et en mélodie en la gardant à distance. Sinon, elles ne pourraient pas chanter. Donc, il y a une mise à distance de l'énoncé, peut-être en utilisant un moule mélodique. J'ai fait plein d'hypothèses et donc ça a été toute une partie de mes recherches a été là-dessus, sur comment arriver à exprimer des choses à la fois très personnelles de cette manière-là. Et arriver à partager ses émotions avec les autres, parce qu'en fait, c'est quand même vraiment ça le but, en tout cas dans les funérailles. Quand on dit une parole mélodisée sur l'exil, une parole mélodisée sur un mort, etc., l'idée, c'est quand même de faire rentrer tout le monde dans le même mood, dans la même émotion. Et donc, l'idée, c'est de faire pleurer les gens sans pleurer soi-même. Sinon, on ne peut plus continuer à chanter. Et ça, moi, pour moi, il y a une technique, une habilité que je trouve complexe et fascinante.
Dai qurbana va jame diyar bekirte ole mele me ele ole mele me ele ele khis ke ve da ve ser kele me This I wrote a letter, show it did I come again, be ramen.
Depuis cette première rencontre avec les cœurs brûlants, Estelle poursuit ses travaux de recherche auprès des Yézidis et de leur diaspora. Elle a récemment publié « Des larmes pour ambassade, les Yézidis sur la scène internationale après les massacres de Sinjar » dans le numéro 73 de la revue Terrain, Homo Diplomaticus. Elle a également publié « Paroles mélodisées, récits épiques et lamentations chez les Yézidis d'Arménie » en 2013 aux éditions classiques Garnier.
Secret, terrain, secret, terrain.
Vous avez écouté Secret de terrain, un podcast développé par le média The Conversation France en collaboration avec la revue Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines.